Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des idées du grain. Ce soir, l'époque est-elle vraiment plus radicale ? Et puisque nous sommes ce soir en partenariat avec le magazine L'Obs, empruntons-lui son introduction au dossier de la semaine consacré aux nouvelles radicalités. Défense de la ZAD, blocage des universités, violence Black Blocs, expédition anti-migrants, une génération radicale rêve de détruire le système, une vraie menace pour l'Élysée. Alors le fait est que l'actualité de ces dernières semaines a été riche en matière d'expression de la radicalité par des groupes qui, dans la plupart des cas, sont à la marge du jeu politique. La quasi-simultanéité de leur visibilité médiatique conduit donc à penser qu'il y a bien aujourd'hui de nouvelles radicalités et qu'elles sont de plus en plus importantes au point d'inquiéter le pouvoir. Mais on peut aussi avancer l'hypothèse que cette visibilité est peut-être liée à une invisibilité, celle de l'opposition décimée après la présidentielle et qui peine toujours à occuper l'espace face au pouvoir en place, lequel pouvoir peut aussi trouver un intérêt à amplifier un risque pour mieux se maintenir. Alors l'époque est-elle vraiment plus radicale ? C'est le sujet de notre discussion de ce soir, en compagnie de deux des membres de notre club. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
On vous retrouve tous les samedis à 12h45 sur France Culture pour la suite dans les idées. Puis on peut lire les contributions que vous proposez sur le site AOC. Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Le tour du monde des idées, vous, c'est du lundi au vendredi, c'est sur France Culture et c'est en fin de matinée, 11h53 pour être précis. Vos chroniques, on peut les lire dans le magazine Le Point. Puis je le disais, nous sommes en partenariat donc cette semaine avec L'Obs, représenté ce soir par un de ses rédacteurs en chef, Sylvain Courage. Bonsoir.
Bonsoir.
La une du magazine cette semaine, alors je parle de nouvelles radicalités, mais ce n'est pas exactement ce titre-là. Ces ultras qui défient Macron, mais c'est bien de radicalité dont il est question dans le principal dossier de L'Obs cette semaine, dans lequel vous écrivez, vous signez le principal article du dossier. On avait fini par douter de l'émergence d'une génération radicale. Désormais, ce n'est plus possible. Qu'est-ce qui vous rend à ce point affirmatif, Sylvain Courage ?
C'est, comme vous l'avez rappelé, l'observation de l'actualité, avec des phénomènes qui sont très différents, par leur nature. La ZAD, avec la défense de la ZAD, l'affrontement avec les forces de l'ordre, le blocage des facultés, aujourd'hui le blocage des partiels, donc quand même un mouvement qui continue, qui se poursuit à bas bruit. Et puis aussi une autre radicalité qui est très différente et qu'on n'associe pas forcément aux deux premières, c'est évidemment la radicalité identitaire qui s'est manifestée aussi de manière très spectaculaire, avec une mise en scène médiatique, je pense évidemment à cette expédition au col de l'échelle de ce mouvement Génération Identitaire qui prétendait garder la frontière et dissuader les migrants d'entrer en France. Donc tous ces phénomènes sont différents, disparates, mais ils témoignent quand même d'une même volonté de contester jusqu'à la violence, parce qu'il y a aussi des affrontements, le système, et de se situer en marge du jeu politique et de contester très fort le pouvoir qui aujourd'hui est très incarné, puisque, comme vous le rappeliez, on est dans une phase de la Ve République où l'Élysée a repris sa supériorité sur tous les autres pouvoirs, sur tous les autres contre-pouvoirs, sur la vie parlementaire, sur la vie partisane. Et donc, il y a finalement une focalisation sur la personne d'Emmanuel Macron. Tout ça fait qu'il y a une émergence spectaculaire d'une forme de remise en cause, de violence, et on a essayé de comprendre, avec les moyens du journalisme, ce que ça pouvait signifier.
Alors Sylvain Bourmeau et Brice Couturier, est-ce que vous partagez le constat de cette émergence d'une génération radicale, ce sont vos mots.
Oui, alors il y a un phénomène générationnel, parce que ça c'est ce que certains sociologues ont pu mesurer. Toutes les générations ont pu avoir à un moment donné le désir pour s'imposer, pour contester leurs aînés, à se manifester de manière visible et parfois même un peu brutale. Et on a l'impression que c'est le cas. Alors, si on ajoute à tout ça la radicalisation religieuse, on a effectivement une génération qui peut être qualifiée de radicale.
Alors Sylvain Bourmeau.
Alors si on ajoute à tout ça la radicalisation religieuse, là, vraiment, on ne comprend plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on additionne des choses qui n'ont vraiment rien à voir les unes avec les autres, ce qui pose un gros problème à la compréhension. Je ne crois pas du tout qu'on assiste à l'avènement d'une génération radicale. Je suis plutôt frappé par une forme d'apathie généralisée à l'égard de l'engagement public. Certes, on assiste à des violences spectaculaires, parfois à des actes très inquiétants, comme ceux de Génération Identitaire qui refoulent des migrants dans les Alpes. On assiste à des violences lors de la manifestation du 1er mai qui sont très violentes, qui produisent des effets bien réels. Mais enfin, de quoi parle-t-on ? On parle de toute petite minorité, vraiment de très peu de personnes rapportées à l'échelle d'un pays de 66 millions d'habitants. Donc parler de génération à partir simplement de ce nombre-là me semble tout à fait excessif.
Ça fait une grosse minorité.
Ça fait malgré tout vraiment pas beaucoup rapporté à ce que c'est qu'une génération. C'est-à-dire qu'il faut voir combien de gens vont passer le bac cette année, combien vont entrer à l'université après être passés à travers cette chose qui est Parcoursup, etc. Bon. Ça, c'est le premier problème. Mais il y en a plusieurs des problèmes. Il y a le problème en particulier, d'abord et avant tout, du mot radical. On fait cette émission quelques jours après la mort de Tom Wolfe. C'était un radical chic. Qu'est-ce que ça veut dire radical ?
Ah non, il a dénoncé le radical chic. Il s'en est moqué, au contraire.
Il a travaillé sur le radical chic. Oui. Il a fait un livre sur le radical.
Le gauchisme de Park Avenue, oui.
Absolument.
Que je viens de lire hier soir.
Ce qui a été traduit en français, la gauche caviar.
Est introuvable.
Ce que je veux dire par là, c'est que ce mot radical a des significations extraordinairement variées. En France, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis. Le parti radical, Madame Pinel, pour les radicaux de gauche, je ne sais même pas qui aujourd'hui représente les radicaux du côté de droit.
Ils ont fusionné récemment.
En tous les cas, le radicalisme dans la tradition politique française, ça renvoie à tout autre chose. Le radicalisme, autre actualité, la publication enfin en français des écrits politiques du philosophe politique majeur John Dewey, qui viennent de paraître chez Gallimard, et qui défend l'idée d'une radicalité démocratique. C'est au cœur de sa théorie politique. Rien à voir avec ce dont on vient de parler. Donc, on est là face à un mot qu'on utilise dans tous les sens. On sait qu'on parle le plus souvent de radicalisation ces dernières années à propos de religion et à propos d'islam en particulier. Qu'est-ce que ça peut bien avoir à voir avec les Black Blocs, avec... Bon, je crois que notre travail de journaliste, comme le travail des philosophes en particulier, comme le travail des sciences humaines, c'est de clarifier les choses, c'est de choisir le lexique, c'est de mettre les bons mots sous peine de quoi on ne comprendra pas les réalités auxquelles on... Et ce ne sont pas ces réalités que je remets en cause. Simplement, je pense qu'on ne rend pas service aux lecteurs, aux citoyens, à mal nommer ce à quoi on assiste.
Alors évidemment, je vais redonner la parole à Sylvain Courage pour que vous nous disiez pourquoi vous, finalement, vous avez utilisé ce terme-là, même si je rappelle bien que le titre, c'est « Ces ultras qui défient Macron ». Peut-être que « ultra », ça peut aussi être un terme intéressant à proposer, mais Brice Couturier, est-ce que vous partagez...
J'avais envie d'être d'accord avec Sylvain Bourmeau parce que je suis assez d'accord avec lui. En réalité, ces minorités ultra-violentes sont hyper minoritaires. Elles représentent extrêmement peu de choses. Il y avait 30 gus, je crois, qui bloquaient les Alpes et ils étaient un millier de Black Blocs venus de Hollande, d'Allemagne et des Pays-Bas parce que, effectivement, s'il n'y avait que les Black Blocs français, ça ne ferait pas beaucoup de monde non plus. Mais ces minorités peuvent être extrêmement violentes, peuvent détruire des centres-villes comme on l'a vu. Là, on a vu le faire à Nantes. Mais j'aurais quand même dire à Sylvain, d'accord, ces ultra-radicaux, ces violents sont très peu nombreux, mais regarde le reste. Regarde le résultat des dernières élections. 51% des 18-24 ans ont voté soit pour la France insoumise, soit pour le Front National. Il y a donc une montée du vote protestataire. Je suis bien d'accord que ça n'a rien à voir avec les radicalités violentes. Regarde un autre phénomène très intéressant. Il y a un gouvernement, on vient de l'annoncer aux informations de France Culture à l'instant, un gouvernement 5 étoiles, Ligue du Nord en Italie, c'est-à-dire des fascistes et des populistes. Il y a un gouvernement EVP, FPE en Autriche derrière Kurz, Sébastien Kurz. Il y a des partis...
Mais on est d'accord, mais on parle d'autre chose,
oui,
là, Brice.
D'accord, mais enfin, alors il y a une gradation. Il est sûr en ce moment qu'il y a, il y a une montée du populisme en Europe qui est inquiétante et la radicalisation de ce populisme peut donner des actions ultra-violentes.
Mais Brice Couturier, est-ce que le fait de regrouper ces différents phénomènes sous l'appellation de radicalité, ça vous pose un problème ? Ou bien est-ce qu'on peut adjectiver ces radicalités ? C'est ce que fait d'ailleurs Jean-Yves Camus dans le numéro de l'Obs. Hein, il parle
notamment qu'il dit que ça n'a rien à voir avec Mélenchon, par exemple. Il dit qu'au contraire, Mélenchon est un rempart à ça. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tous les cas, il ne les met pas dans le même sac.
Il le met dans la radicalité de contestation. Et il évoque aussi la radicalité de rupture, qui est différente, qui est plutôt juste justement les Black Box, la génération identitaire, juste sur ce
principe. Oui, l'idée, c'est qu'il y a une gradation entre ce que la radicalisation de protestation et la radicalité de rupture, selon la terminologie d'Anne Muxel, qui est assez juste en effet. Mais si vous voulez, il peut y avoir une tentation chez ces jeunes qui sont dans une situation de rupture par rapport aux institutions politiques, parce que vous avez bien dit, Hervé Gardette, vous avez bien raison, il y a un vide politique, il y a un vide de l'offre politique, et pour cause, vous avez un gouvernement Macron qui s'étend très loin à droite et très loin à gauche, donc il ne reste plus que des extrêmes en réalité pour s'opposer à ce gouvernement, et cette tentation de l'extrémisme peut déboucher effectivement sur des manifestations, ce que l'Obs montre très bien, par des manifestations de rupture violente, là pour le coup, qui sont effectivement des radicalités de rupture.
Que pensez-vous alors du coup de ces critiques aussi, Sylvain Courage, c'est-à-dire quelque chose qui serait amplifié par rapport à ce que ça représente vraiment, et puis ce terme un peu fourre-tout.
Oui, le terme, c'est vrai qu'il n'est pas d'une précision, et d'ailleurs philosophiquement, il a connu plusieurs définitions, juridiquement aussi, puisqu'il y a une définition juridique de ce qu'est la radicalité, puisque ça peut aboutir à l'interdiction d'un mouvement politique. Mais effectivement, il s'agit de minorités, et d'ailleurs l'étude d'Anne Muxel et Olivier Galland le précise bien, puisque d'après leur conclusion, seul un lycéen sur cinq, je rappelle qu'ils ont interviewé des lycéens de 15 à 17 ans, est prêt à recourir à la violence pour faire valoir ses idées. Donc effectivement, c'est minoritaire.
Je rappelle le titre de l'ouvrage, La tentation radicale, qui a été publié au PUF il y a quelques semaines.
Mais c'est minoritaire, mais il y a une porosité. C'est-à-dire que oui, les Black Blocs ne sont qu'un millier, mais il s'est trouvé dans cette manifestation qu'il y avait peut-être 10, 12, je ne sais pas exactement, ou 15 000 autres personnes qui étaient présentes en tête de cortège et qui, finalement, sans participer aux violences et aux attaques contre les symboles du capitalisme, ont quand même servi d'écosystème, ont protégé, ont participé à l'expression de cette violence. Donc il y a une porosité, c'est une gradation. Effectivement, les groupuscules d'ultra-gauche et les groupuscules d'ultra-droite sont extrêmement minoritaire, mais il y a une forme de rejet du système qui se diffuse. Et il y a des partis qui sont à la fois des remparts, c'est-à-dire que le Front National a assimilé, et ça c'est bien montré par M. Camus là, dans l'interview qu'il nous a donnée, a assimilé des groupes d'ultra-droite qui étaient très, très violents dans les années 70 et qui sont progressivement ont été agrégés, digérés par le Front National et qui est devenu un parti finalement du système pour ceux qui aujourd'hui se reconnaissent dans Génération Identitaire ou dans Bastion Social ou dans l'Action Française. On voit ressurgir l'Action Française avec de jeunes militants, ce qui est quand même aussi un signe d'une re-radicalisation de la jeunesse. Ces parties-là à la fois les assimilent et en même temps les expriment un peu, parce que quand Génération Identitaire monte au col de l'échelle, tous les hiérarques du Front National applaudissent. Mélenchon, c'est différent parce que
ce qu'il n'aurait peut-être pas fait il y a quelques années,
il n'a pas applaudi aux violences des Black Blocs et son engagement républicain, sa fibre républicaine que personne ne conteste. Mais dans son entourage, il y a aussi des gens qui sont plus radicaux et lui aussi digère et catalyse une certaine radicalité qui s'exprime de manière protestataire. Ce sont des partis qui ont des fonctions tribuniciennes à l'intérieur du système, mais qui représentent aussi un risque systémique, et ça on l'a vu aux élections, pour le pouvoir. Et donc finalement, cette question de la radicalité, c'est la question de la mise en cause du tronc commun républicain, de l'humanisme et des valeurs classiques de la démocratie par des gens qui finalement se disent la fin justifie les moyens, ce système ne fonctionne pas, il faut le remplacer par autre chose.
Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que ce sont les mêmes radicalités s'agissant des radicalités, y compris des radicalités. Qualité de contestation, c'est-à-dire entre la France insoumise et le Front National, ce que rappelle à nouveau là
bien
aussi Jean-Yves Camus, c'est-à-dire la preuve, c'est que ce sont des radicalités en tout cas qui se combattent.
Sur la question de l'ouverture de la société, de l'accueil des migrants, on voit bien ce qui peut opposer ces deux partis et ces deux camps-là. Après, dans la critique du capitalisme néolibéral de l'Europe, il y a des recoupements et ça, on le voit.
Sylvain Bourmeau.
Moi, j'ai un problème de découpage, au fond, de la réalité. Que ce soit le découpage journalistique, tel qu'il est mis en œuvre dans ce dossier de l'Observateur, ou le découpage de certains chercheurs. C'est-à-dire que l'idée même d'un observatoire de la radicalité que dirige Jean-Yves Camus me convainc pas, de la même façon qu'à l'époque, il y a eu ces volumes collectifs qui s'appelaient La France Rebelle, par exemple, qui me posaient problème aussi parce qu'ils avaient tendance à procéder D'une double manière de représentation. C'est-à-dire à la fois, alors, selon un mode de connaissance journalistique très connu, où on va juxtaposer un pour un contre, et donc on aura l'impression de produire de l'objectivité. C'est comme ça que marche l'épistémologie journalistique, souvent un peu inconsciente, un peu rentrée. Elle s'est traduisait bien dans les campagnes d'information de la chaîne de I24 de M. Drahi, qui était l'information, c'est l'union des points de vue. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette campagne où on avait la moitié d'un visage à côté de l'autre, une autre moitié de visage qui était censée être antagoniste. Et donc, l'information, l'objectivité naîtrait de la juxtaposition. Bon, c'est le fameux « une minute pour les Juifs, une minute pour Hitler ». C'est ce moyen de produire de l'objectivité, entre guillemets, journalistique, qui ne nous apprend strictement rien de la réalité, de la complexité sociale. Ça, c'est à l'œuvre en permanence dans le travail journalistique. Et c'est augmenté, je dirais, par tout ce qui touche au politique et qui a à voir avec la représentation classique de la symétrie autour d'un axe gauche-droite. Et donc ça permet, au fond, de construire des choses qui ont l'air comme ça balancées. Et moi, je suis un peu choqué qu'on puisse mettre en balance, en quelque sorte, d'un côté, les gens de génération identitaire qui vont refouler des gens à la frontière... Et voilà, enfin, faut bien prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis de ces migrants. Et de l'autre, par exemple, des étudiants ou des universitaires qui vont choisir d'occuper, pour rester sur le même sujet, l'université Paris 8, comme ça a été le cas récemment, pour pouvoir abriter des migrants dans cette université.
Mais franchement, enfin, Sylvain Bourbon, c'est pas pour défendre l'Obs, mais dans le dossier, il n'y a pas de mise en balance entre d'un côté les étudiants et de l'autre côté génération identitaire.
Ben si, puisqu'on a mis dans le même dossier à la fois les gens qui occupent les universités et les gens qui refoulent les étrangers à la frontière dans les Alpes. Et tout ça fait partie des radicalités. Je pense qu'il y a un moment où il faut sortir des schémas, sortir des représentations schématiques pour essayer de mieux comprendre ce à quoi on a affaire. D'un côté, on a des gens qui défendent des valeurs qui ont à voir avec la République, qui ont à voir avec l'asile, par exemple, qui ont à voir avec le fait d'accueillir des étrangers en France. Et pour ça, ils peuvent être amenés à bloquer des locaux administratifs ou universitaires pour accueillir des étrangers. Et puis de l'autre, on a des gens qui se comportent violemment, et d'ailleurs les forces de l'ordre n'interviennent pas, pour refouler à la frontière ces migrants qui ont fait des milliers de kilomètres pour arriver et se mettre en sécurité. Donc, je sais pas, du point de vue des valeurs politiques, quand on est dans un journal de gauche comme le Nouvel Observateur, ça pose question. Enfin, ça me pose question comme lecteur de gauche du Nouvel Observateur.
Niveau, hein, ça s'appelle l'Obs.
Je comprends très bien votre critique et ce point de vue. La seule manière de les mettre côte à côte ou de les analyser dans le même ensemble, c'est de se placer du point de vue du pouvoir, justement. C'est pour ça que nous avons titré sur Macron, parce que pour lui, et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que un de ses conseillers m'a expliqué sa conception, du point de vue de celui qui veut maintenir son pouvoir, du point de vue de celui qui veut maintenir l'ordre, bah, les étudiants qui ouvrent la faculté pour faire rentrer des migrants sont aussi dérangeants que ceux qui, ou les jeunes néo-fascistes qui vont monter.
Enfin, c'est important de se préoccuper de savoir quelles valeurs ils défendent,
oui,
en faisant ces actes.
On peut se préoccuper de quelles valeurs ils
défendent,
mais dans la situation politique actuelle, pour le pouvoir central et pour le pouvoir républicain qui doit rétablir l'ordre, les deux dangers coexistent. Voilà.
Une fois n'est pas coutume, Brice Couturier, c'est peut-être vous allez vous retrouver en position d'arbitre ce soir.
Je vois bien que Sylvain Bourmeau est choqué qu'on mette sur le même plan les extrémistes de droite, les extrémistes de gauche, parce que certains ont sa faveur et les autres pas.
J'ai pas dit ça.
Personnellement, j'aurais une position plus centriste et j'aurais effectivement tendance à penser que les étudiants ou les députés de la France insoumise qui empêchent des étudiants de venir passer leur concours et leur diplôme sont effectivement des gens qui menacent l'ordre républicain et qu'effectivement le pouvoir a pour devoir de laisser les étudiants avoir normalement leurs examens et que, évidemment, c'est à la force publique de tenir les frontières et pas à des gens vêtus de blousons bleu marine. Donc, je pense qu'il y a l'État a le monopole de la force et de la violence dans une démocratie
légitime
et que quiconque utilise la force et la violence contre l'État, contre la police ou la gendarmerie par exemple dans la ZAD en ce moment, c'est des gens qui effectivement méritent d'être réprimés parce qu'ils font obstacle à l'ordre public, ils font obstacle à la justice et que donc ils doivent être réprimés dans les deux cas. Et pour moi personnellement, ça me dérange pas du tout qu'on mette dans le même sac les radicalités d'extrême droite droite et les radicalités d'extrême gauche. Elles se valent bien l'une et l'autre.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, ce sont des violences qui sont du même ordre ou quel serait,
bah,
serait le plus petit dénominateur commun à ces différentes radicalités ? C'est quoi ?
Moment,
c'est le rejet du système ?
Oui, c'est évident, il y a un rejet du système. On peut le comprendre, hein, on peut comprendre qu'effectivement il y a un sentiment dans une partie de la jeunesse française que le système ne fonctionne pas en leur faveur, que la démocratie est toujours incomplète, c'est sa définition même, elle n'est jamais aussi radicale que voudrait John Dewey.
Mais quel système contestent les gens qui aident les migrants au fond? Est-ce que
je te parle de ceux qui bloquent l'université? Par exemple, ceux qui ont utilisé les locaux de Paris 8, utilisé les locaux de Paris 8 effectivement pour loger plusieurs centaines de migrants et qui se sont retrouvés avec des problèmes extrêmement graves aujourd'hui de délinquance, de trafic de drogue, etc. Commencent à comprendre qu'ils ont fait une sacrée erreur et que la fonction d'une université c'est de d'enseigner, de donner des cours et de délivrer des diplômes, pas de servir effectivement la cause des associations de défense des migrants. Et je quand même remarquer une chose, c'est qu'un pouvoir doit tenir compte de l'opinion et que le sondage de YouGov qui est paru la semaine dernière, qui porte sur un sondage sur les 15 pays d'Europe, montre que la préoccupation numéro 1 de la population dans 13 de ces 15 pays d'Europe, c'est l'immigration. Donc les pouvoirs doivent tenir compte de cette...
Mais alors je suggère qu'on imprime à autant d'exemplaires et qu'on envoie à autant d'exemplaires à tous ces gens la leçon inaugurale de François Héran au Collège de France. Ça leur fera du bien d'apprendre un petit peu la situation réelle.
Il faut tenir compte. La démocratie, c'est tenir compte de l'opinion publique, des sondages, et les gouvernants sont obligés
à condition que cette
réélu.
Opinion soit informée correctement et en particulier par les recherches les plus récentes et les plus sérieuses.
Parce dont que... tu as le monopole, bien sûr.
Mais non, je parle de François Héran, en l'occurrence, dont le travail est respecté. Voilà, donc, non, je pense que...
On va pas faire un débat sur l'immigration, il a eu lieu il n'y a pas très longtemps dans cette émission.
On va pas revenir là-dessus, mais bon, il y a un autre aspect des choses dont je n'ai pas encore parlé. Vous avez tendu la perche plusieurs fois, Hervé, et je pense qu'il est effectivement important. C'est l'hypothèse selon laquelle, au fond, ce à quoi on assisterait, même si ce n'est pas massif en nombre, est spectaculaire et surviendrait, ou serait visible en tout cas, du simple fait que la transformation du jeu politique suite à l'élection d'Emmanuel Macron et l'effondrement des deux partis concomitants, des deux partis de gouvernement que sont le Parti Socialiste et les Républicains de l'autre, produit cet effet de façon quasi mécanique. Donc là, c'est une évidence et je trouve que la question, évidemment, est à adresser à ces deux partis-là, parce que je pense qu'ils sont en train de tenter chacun à sa manière de se reconstruire. Mais la question est aussi à adresser à Emmanuel Macron, parce que la stratégie qu'il a mise en œuvre, dont on a bien compris que c'était une stratégie qui visait à s'opposer à Marine Le Pen. Et d'ailleurs, c'est la situation dans laquelle il s'est retrouvé. C'est pour ça qu'on a voté pour lui au deuxième tour un certain nombre de Français, une très large majorité de Français. Et en fait, Emmanuel Macron ne semble pas véritablement avoir pris la mesure des conséquences politiques à moyen et long terme de cette transformation, du danger qu'elle porte en termes de menace, effectivement, pour lui, qu'on peut qualifier de hors système de parti. D'autant que tout ça s'accompagne d'une mise à mal systématique et organisée de tout ce qui peut, de près ou de loin, ressembler à un corps intermédiaire. Or, c'est bien... Le problème, c'est bien d'affaiblir, au fond, la démocratie représentative. Si on affaiblit la démocratie représentative, après, il ne faudra pas se plaindre qu'effectivement, une ultra-minorité de gens viennent se manifester autrement que dans les urnes, dans les grèves, dans les manifestations organisées, dans la vie démocratique absolument normale.
Sylvain Courage, est-ce que vous pourriez rejoindre justement
Analyse. Bien sûr,
c'est-à-dire une responsabilité du pouvoir et aussi des partis d'opposition.
On peut soupçonner aussi, effectivement, Emmanuel Macron, garant de l'ordre public, de jouer de ses désordres pour affirmer sa centralité et maintenir son pouvoir. Et d'ailleurs, c'est un reproche que lui fait Laurent Berger, qui n'est pas un radical, qui est quelqu'un d'assez subtil.
Numéro 1 de la CFDT.
Il va finir par le devenir avec cette...
En ignorant les corps intermédiaires, en refusant de trouver des compromis avec des points de vue différents, et bien finalement, à la fin, Emmanuel Macron se retrouvera seul face aux radicalités. Il a tenu ses propos. Est-ce que c'est effectivement un danger
en fait,
pour
en fait, le
pour
danger, pour moi, je ne l'avais pas vu venir comme ça. Celui que j'avais vu venir comme danger avant l'élection de Macron, dans la dernière phase de la campagne électorale, c'était qu'Emmanuel Macron se retrouve face à Marine Le Pen, comme il l'a été, au deuxième tour. Il se trouve que Marine Le Pen a explosé en vol d'une certaine façon et que les choses ne se sont pas reconstruites comme ça. Donc effectivement, il y a désormais un autre type de... Je sais pas, on peut même pas parler de face à face parce que pour le coup les fronts sont multiples. Mais en tous les cas, de face à face entre eux, si on accepte de mettre ensemble des choses qui n'ont rien à voir, Emmanuel Macron et des formes de contestation qui ne sont pas institutionnalisées dans le jeu politique.
Est-ce qu'il y a un problème chez Emmanuel Macron, Brice Couturier, de refus du débat, de refus de certaines formes de contestation, de mise à l'écart de ses corps intermédiaires et notamment des syndicats, qui peut aussi expliquer cette visibilité, au moins cette visibilité des radicalités.
Il y a peut-être l'illusion dans la Macronie que les syndicats, comme les partis politiques dits de gouvernement, étaient des coquilles vides et qui sont en train de se vider et qu'en réalité ils n'ont pas d'existence. Et c'est vrai, quand si vous regardez le nombre de syndiqués qu'il y a en France, ça oscille entre 6 et 7% des salariés. Donc c'est très très peu. Et ces syndicats sont divisés en 8 corporations. Donc effectivement, des confédérations étaient très faibles. Mais je pense qu'ils auraient tort à la Macronie de considérer que c'est une chose que la presse économique leur reproche souvent. Tous les gouvernements précédents se sont appuyés sur un syndicat en particulier pour essayer de faire passer des réformes dont le pays a besoin et dont les autres syndicats ne voulaient pas. Alors on achète un syndicat, souvenez-vous, Sarkozy avait cette alliance étrange avec Bernard Thibault en train de recentrer la CGT. François Hollande était manifestement plus tenté par l'alliance traditionnelle des socialistes avec la CFDT. Or il semble que Macron, lui, n'ait choisi personne. Alors, est-ce que ça veut dire qu'effectivement, comme on peut le soupçonner, il estime que pas plus que les Républicains et le Parti Socialiste aujourd'hui, la CGT et la CFDT et Force Ouvrière ne pèsent plus grand-chose? Ça serait un tort, parce qu'effectivement, on le voit bien aujourd'hui, même si ces syndicats sont peu nombreux, ils sont importants sur le plan stratégique parce qu'ils ont un pouvoir de nuisance colossal. Pensez au désagrément qu'occasionnent tous les jours ceux qui utilisent les chemins de fer, la grève à la CGT, ou en ce moment la grève aussi à Air France qui va désorganiser les départs en vacances de pas mal de gens. Donc ce pouvoir de blocage, ce pouvoir que les syndicats ont effectivement dans le pays est très important, et il semble en effet que du côté de la Macronie on l'ait assez mal apprécié jusqu'alors.
Sylvain Courage.
Oui, on ne sait pas trop par quoi Emmanuel Macron imagine de remplacer ce dialogue social. On voit bien qu'il y a quand même un lien entre radicalité et représentation. C'est-à-dire que c'est la crise, alors c'est la tarte à la crème, la crise de la représentation. Mais c'est vrai que si la jeunesse épouse des idées radicales, c'est parce que souvent elle se sent exclue, non représentée, et qu'elle en voit... elle envoie bouler finalement toutes les représentations traditionnelles. Donc la réforme institutionnelle est importante. Est-ce que celle qui est proposée par Emmanuel Macron suffira à remettre la démocratie française sur les rails d'un système plus consensuel, plus apte à produire du consensus et du compromis? C'est pas sûr du tout, parce que pour l'instant elle apparaît plutôt cosmétique que réellement profonde.
Dans l'article que vous signez, Sylvain Courage, il y a une confidence intéressante d'un proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Bon, vous n'allez pas nous lire de qui il s'agit.
Il n'y a pas beaucoup qui parlent, donc on peut deviner.
Le président considère que toutes les formes de radicalisation sont des symptômes d'une distension du lien national. Et il ajoute « Voilà pourquoi le président s'attache à reconstruire des figures de héros et des motifs d'engagement ». Est-ce que ça veut dire que chez Emmanuel Macron, il y a l'idée que si engagement radical, restons quand même sur ce terme, il doit y avoir, ça doit se faire plutôt au service de la nation plutôt que contre l'unité nationale.
Voilà, il pense que la jeunesse est en quête d'absolu. Hein. C'est le mot qu'il a utilisé dans son discours d'hommage au colonel Beltrame. L'absolu, donc on recherche l'absolu. Et pour lui, dans sa vision, un djihadiste recherche l'absolu comme un black bloc ou un jeune de la génération identitaire. C'est cette quête d'absolu qui... qu'il essayait de retourner, de canaliser vers des héros qu'il appelle positifs et qui tranchent avec l'individualisme contemporain, puisque dans cette vision-là, c'est l'absence aussi de repères et de valeurs qui provoque une radicalisation, négative. Là où la radicalisation, dans son esprit, pourrait être positive si elle se tournait vers le bien commun, vers les valeurs universelles. Et donc, effectivement, il exalte Arnaud Beltrame. Le rétablissement du service national, même sous une forme symbolique, semble être pour lui un instrument de cette reconstruction du lien et son désir que les Français refassent nation. Alors c'est très ambitieux, c'est assez abstrait, mais ça prouve que lui aussi a des idées assez fermes finalement. Oui, il a une forme de radicalité aussi.
Et on voit qu'il y a quand même une cohérence et que les pièces du puzzle elles finissent par s'assembler sur ces questions, Sylvain Bourmeau. C'est-à-dire dans la façon que peut avoir le président de la République d'aborder cette question de la radicalité. On voit que c'est pas juste une figure de repoussoir pour le pouvoir.
Mais ce qui est troublant dans ces propos que vous avez cités, Hervé, de ce conseiller, c'est pas tant l'analyse qui part d'un constat qui serait que la jeunesse aurait besoin d'absolu. Bon, je sais pas. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas d'ailleurs souvent le cas pour la jeunesse? Est-ce que c'est pas l'une des
Bien
caractéristiques
sûr.
Bon, je sais pas. Faudrait pour ça mener des enquêtes et voir d'un peu plus près. Mais c'est pas ça que je trouve le plus critiquable. Ce que je trouve critiquable, c'est la naïveté qui consiste à croire pour un conseiller, et j'ose espérer que le président de la République ne partage pas cette naïveté, qu'il lui suffirait de proposer des figures de héros pour que la jeunesse s'en empare. Enfin, je veux dire, dans quel régime vit-on? L'État va pas se mettre à fabriquer des posters. Enfin, on n'est pas dans l'Union soviétique des années 50 ou dans la Chine des années 60 pour penser de la sorte. Je veux dire, l'État va pas se mettre à fabriquer des héros estampillés, officiels, pour que la jeunesse puisse s'en saisir et canaliser en quelque sorte cette soif d'absolu qu'aurait la jeunesse.
C'est quand même ce que la République française a fait pendant des décennies.
Non, mais ça, c'est ce qu'on constate après coup. Mais avoir la naïveté dans la société de communication dans laquelle on vit, a vu les modes d'information des uns et des autres extraordinairement éclatés, de croire que le pouvoir politique central, aussi puissant soit-il, parce qu'on est évidemment dans la démocratie occidentale dans laquelle le pouvoir exécutif est le plus puissant et de très loin, n'empêche, je ne pense pas qu'il ait ce pouvoir-là. Je pense qu'on
un service national, ça allait bien quand même dans ce sens.
Non, mais enfin, je pense qu'on est... même des gens comme Gaspard Ganzer, qui est assez proche du président Macron, a dit ce qu'il pouvait
l'ancien conseiller de Hollande.
De cette idée, je pense que c'est le cas aussi d'un certain nombre de jeunes qui ne voient pas beaucoup d'absolu là-dedans. Non, je pense que ça traduit juste quelque chose qui n'est pas très intéressant, est un indice, et c'est toujours le cas avec les conseillers, de ce que pensent les conseillers autour d'un... C'est-à-dire que ça a à voir aussi avec les pouvoirs thaumaturgiques qu'un autre conseiller a pu prêter au président de la République, dont j'ose espérer là aussi qu'il n'y croit pas.
Bah, Brice Couturier, qui a voyagé dans la tête d'Emmanuel Macron pendant quelques mois pour son livre.
Oui, il est certain que l'axe principal de la politique de Macron, en dehors du fait de réformer le pays, mais réformer le pays, c'est surtout pour le mettre en état d'affronter la modernité qui l'entoure. Je crois que l'axe principal de la pensée de Macron, c'est effectivement la réunification nationale. C'est qu'il a constaté effectivement l'éclatement de la nation sous les coups du communautarisme, sous les coups de l'extrémisme idéologique, de la radicalisation. Précisément, il peut voir, comme chacun d'entre nous, une montée de l'intolérance, du manichéisme, de la violence politique, de la violence idéologique et de la violence religieuse, évidemment. La mission qui croit devoir porter, c'est celle de réunifier les mémoires divisées, c'est de réunifier un pays éclaté sur une base de plus en plus communautariste. Et pour ce faire, il y a besoin effectivement de figures d'identification fortes qui symboliseraient, comme on a eu autrefois effectivement la figure de Jeanne d'Arc, disputée par la droite et par la gauche, mais qui est effectivement un beau symbole d'un peuple en lutte pour son indépendance, sa liberté, etc., contre les puissants.
Il y a des figures qui ont fait preuve de radicalité dans leur engagement.
Mais bien sûr, parce qu'il peut y avoir une contre-radicalité, si vous voulez, positive, d'incarnation de l'unité nationale, de consensus, des figures très consensuelles. Mais est-ce que, honnêtement, est-ce qu'on en est encore à pouvoir utiliser ce type de mythe, de mythologie nationale aujourd'hui? J'en doute.
Là-dessus, on est d'accord aussi.
Mais il est clair que, souvenez-vous du fameux discours sur Jeanne d'Arc de Macron 6 mois avant les élections. C'était très étonnant. Oui, il s'identifiait réellement à Jeanne d'Arc. Il prêtait à Jeanne d'Arc, d'ailleurs, un progressisme qu'on lui connaît peu, pour montrer à quel point il avait envie d'enfourner son arme.
C'était
son
aussi
cheval et son armure.
On le sait à cette époque-là, l'ancien régime et en même temps la révolution.
Oui, oui, il y a aussi ça. Oui, si vous voulez, je crois que c'est très très présent chez Macron, l'idée que vous savez, il faut voir quand même qu'on est passé à côté de la guerre civile. Si Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen étaient arrivés au deuxième tour, qu'est-ce qui serait passé honnêtement? Est-ce que vous pensez que la moitié des Français auraient accepté d'obéir à une présidente Marine Le Pen ou qu'une autre moitié des Français auraient accepté d'obéir à un Jean-Luc Mélenchon? Personnellement, j'en doute. Je pense qu'on est passé très près, effectivement, d'un affrontement politique de grande ampleur. Et Macron, lui, prend les leçons de cette situation que nous avons vécue de très près et sa mission historique. C'est pas seulement.
Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis, ils sont passés très près, mais ils sont carrément tombés dedans, je veux dire, avec l'élection de Trump. Donc,
oui. Oui, ben justement.
Il n'y a pas de guerre civile aux États-Unis.
Non, parce que la guerre civile,
il y a eu Charlottesville, il y a eu des choses.
Non, oui, enfin, aux États-Unis, il y a l'habitude d'obéir au président.
Et on a appris aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il y avait encore eu une fusillade dans un lycée.
Et les divisions politiques sont beaucoup moins profondes que chez nous. Le manichéisme des partis politiques américains est sans comparaison avec ceux du Front National ou de la France Insoumise.
Sylvain Corré, j'ai un dernier aspect que j'aimerais évoquer avec vous, enfin, avec vous trois, à propos justement de cette question des radicalités, surtout des modes opératoires qui, dans certains cas, peuvent être violents et qui peuvent être, qui sont extrêmement mal perçus, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une moindre tolérance à la violence qui rend peut-être ces mouvements plus visibles et qu'on a peut-être tendance à amplifier par rapport à ce qu'ils représentent vraiment?
Bien sûr, non, mais on parle de violence, mais les Black Blocs à Paris, ils ont brisé des vitrines, ils ont incendié quelques véhicules, mais ça n'a rien à voir avec la violence politique qui peut s'exercer sur le reste de la planète. On est évidemment dans une civilisation, dans des rapports policés, à tous les sens du terme. C'est-à-dire que la police s'interpose et la police est un élément de civilisation aussi. Mais on craint.
On lui a reproché de ne pas s'être suffisamment interposé.
Ce n'est pas suffisamment interposé parce qu'aussi, on sait très bien que si elle fait un usage excessif de la force, là, le pouvoir va être mis en cause. Et par toutes les oppositions, alors cette fois, intérieurs au système, qui font partie du système, qui vont lui reprocher le mauvais usage. Donc en fait, c'est un théâtre. Et c'est pour ça aussi peut-être que les Français sont si friands de ces scènes de radicalité, à la fois comme acteurs et comme spectateurs, c'est qu'on a une histoire qui quand même a été violente, avec des soubresauts, avec de brusques ruptures idéologiques, des régimes qui ont succédé aux autres. Et donc on a toujours l'idée que ça pourrait se reproduire. Hein. Et alors ce qui rajoute aussi peut-être à la tension qu'on porte aujourd'hui à ces radicalités, c'est évidemment l'anniversaire de 68. Parce que 68, c'est le dernier grand spectacle de cette rue qui pourrait renverser le pouvoir, avec De Gaulle qui s'en va. Et donc, voilà. Donc, on voit bien qu'à Tolbiac, on a rêvé à ça, et que chez Jean-Luc Mélenchon, on rêve à ça. Donc, il y a quand même des représentations de la radicalité et de la violence politique qui sont particulières dans notre mentalité française.
Sylvain Bourbon.
Permettez-moi de répéter ce que j'ai déjà dit la semaine dernière. On célèbre les 50 ans de mai 58. On oublie 68 et on oublie les 60 ans de mai 58 où s'agissant de violence
et d'insurrection
et d'extrême droite et d'utilisation de la violence, enfin de l'armée et de présence des chars dans les rues à Paris et de coups d'État, pour le dire très clairement, on a été servi et on n'en parle pas. Moi, j'ai pas vu le moindre dossier sur mai 58. Alors vous allez me dire, c'est pas un contron 60 ans, enfin quand même, il y a là quelque chose de refoulé dans l'histoire politique, dans le changement de régime. Je trouve ça étrange.
Brice-Couturier.
Oui, on pourrait aussi parler du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, de celui de son oncle prestigieux. La France a connu à bien des reprises des changements de régime.
Non, mais là, il n'y a pas
sous
si
la menace.
Ça. C'est
d'accord,
le dernier.
Mais
ça fait partie
de l'instabilité constitutionnelle française, si vous voulez. Il y a des moments où effectivement le pays est au bord de la guerre civile et on apparaît un homme providentiel. Entre parenthèses, Macron, lui, a été élu. Il n'a pas fait de coup d'État. L'armée n'était pas dans le coup. Mais on était dans une situation qui était assez voisine en réalité, effectivement.
Et rassurez-nous, Brice Couturier, on n'est pas au bord de la guerre civile aujourd'hui.
Oh, bah, loin de là, non, heureusement.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Sylvain Courage, donc je renvoie au dernier numéro de l'Obs, ces ultras qui défient Macron, Black Blocs, Indigènes de la République, Génération Identitaire. Il y a un certain nombre de groupes qu'on n'a pas évoqués ce soir. Il faut lire le dernier numéro de votre magazine. Merci Brice Couturier, qu'on retrouve la semaine prochaine pour le tour du monde des idées. Sylvain Bourmeau, vous, la suite dans les idées, c'est demain. Ce sera avec qui?
Ce sera avec le sociologue Patrick Farrow et on parlera du capitalisme addictif.
Capitalisme addictif. Donc demain à 12h45. Je remercie évidemment toute l'équipe du Grain, Antoine Bulster, Fanny Richer, Antoine Tricot, Isolde Sicard, Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Julien Douminc, Philippe Thibault, Jean-Benoît Tétu et Laurent Binder.